L'info avec Isabelle Bertolini. Bonjour Isabelle.
Bonjour Valérie et bonjour à tous. Les partis lausannois ne quittent pas la gare de Lausanne des yeux. Ils ont rédigé 6 demandes à l'adresse de l'Office fédéral des transports et des CFF en réaction au retard du chantier annoncé en mars dernier. Demandes qui ont été présentées aujourd'hui devant la presse. Les partis exigent notamment que les CFF ne se concentrent pas uniquement sur le projet de rénovation de la gare. Ils souhaitent que le dossier d'une gare souterraine soit d'ores et déjà étudié et intégré aux planifications. Pour Valentin Christ, la gare de Lausanne rénovée pourrait bien être obsolète dès la fin du chantier en 2037. On écoute le président du groupe UDC au Conseil communal de Lausanne.
C'est un risque effectivement parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'une mise à jour des installations ferroviaires, donc de la gare, mais c'est pas encore de pouvoir vraiment répondre aux grands besoins en matière de mobilité qu'il y a à l'avenir. Donc il s'agit simplement quelque part de se mettre à niveau par rapport à ce qu'il y a déjà ailleurs en Suisse, mais on n'est pas encore en train de voir à très long terme.
Mais est-ce que c'est bien réaliste de demander au CFF de développer à la fois un projet comme la rénovation de la gare de Lausanne et de développer un projet qui est vraiment au stade d'embryon pour l'instant?
Bon, à Zurich, il y a déjà une gare de surface depuis très longtemps et puis une gare souterraine depuis déjà pas mal d'années quand même qui fonctionne très bien. À Genève, il y a un projet de gare souterraine qui est sur les bons rails, en tout cas meilleur qu'à Lausanne. Donc oui, c'est réaliste et c'est nécessaire.
Parmi les autres propositions formulées par les partis, on note notamment des demandes d'indemnisation pour les riverains et commerçants et des rabais CFF pour les riverains et pendulaires. Mais les partis lausannois peuvent-ils réellement avoir un impact sur la politique de l'Office fédéral des transports et des CFF? Louis Dana, président du groupe socialiste au Conseil communal de Lausanne.
Notre marge de manœuvre, elle est ténue. Ça, on en est conscient. On est des élus communaux avec des compétences qui sont relativement réduites, mais on est les récipiendaires d'une colère. On est d'ailleurs les premiers récipiendaires d'une colère dans la mesure où on parle tous les jours avec des citoyens de Lausanne, avec des riverains du quartier qui nous disent combien ce chantier de la gare touche leur vie au quotidien. Et c'est peut-être pour ça qu'on doit être entendu, c'est parce qu'on a une connaissance du terrain que n'ont peut-être pas d'autres élus. C'est cette connaissance du terrain qui fait notre force et notre légitimité.
On entend donc que les CFF et l'OFT sont complètement déconnectés?
Je ne sais pas s'ils sont déconnectés, disons, mais en tout cas, force est de constater qu'il y a 13 ans de retard. On a entendu M. Ducrot, lors d'une émission de télévision, nous dire que 13 ans de retard, ce n'était pas forcément un problème. Ben nous, en tout cas, on n'est pas d'accord avec ces explications et avec cette justification.
Avant même de recevoir la lettre, les CFF et l'OFT ont réagi par voie de communiqué aujourd'hui. Ils se disent ouverts au dialogue. La guerre d'agression de la Russie en Ukraine reste le point de mire de la politique sécuritaire de la Suisse. C'est le service de renseignement de la Confédération qui le dit aujourd'hui. Hôte de nombreuses organisations internationales, la Suisse est à l'échelle européenne parmi les pays où opère le plus grand nombre d'espions russes sous couverture diplomatique. Et le mandat helvétique au Conseil de sécurité de l'ONU accentue ce risque.
La Russie s'efforce aujourd'hui d'afficher un retour à la normale après le soulèvement du groupe Wagner.
Le pays annonce la levée des mesures de sécurité. Le président Vladimir Poutine n'est toutefois pas réapparu en public depuis une allocution télévisée samedi où il a accusé M. Prigojine d'avoir donné un coup de poignard dans le dos de la Russie en lançant sa révolte. Une enquête criminelle pour appel à la mutinerie armée est toujours en cours selon Moscou et ce malgré l'immunité obtenue suite à une médiation du président biélorusse. Et pourquoi le Titan a-t-il explosé? Une question à laquelle tenteront de répondre les gardes-côtes des États-Unis. Ils ont annoncé hier avoir ouvert une enquête. Leur objectif, empêcher qu'un événement similaire puisse se produire et formuler des recommandations. Un recueil de preuves est d'ailleurs en cours. L'enquête américaine permettra aussi de déterminer si des poursuites judiciaires sont envisageables. Rappelons que le Canada a aussi lancé une enquête ce week-end et le submersible privé a disparu près de l'épave du Titanic. 5 victimes sont à déplorer. C'est l'un des événements principaux des festivités marquant les 175 ans de la Constitution fédérale. Le week-end prochain, les 1er et 2 juillet, les bâtiments officiels de la Berne fédérale ouvrent leurs portes au public car physiquement, la Berne fédérale, ce n'est pas seulement le palais du Parlement, c'est une dizaine d'immeubles sur 300 mètres. Visite anticipée avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
Un mot d'abord sur la date qui marque la création de la Suisse moderne, 1848, au sortir de la guerre civile du Sonderbund. Les cantons décident alors de créer un État fédéral, un îlot démocratique dans une Europe encore très monarchique. Décision majeure, Berne sera la capitale politique du pays. Il a fallu plus d'un demi-siècle pour que, physiquement, la Confédération s'installe au centre de la ville, sur 300 mètres, le long de deux rues, la Bundesgasse et la Chorergasse, avec une dizaine de bâtiments. Ce sont ces immeubles qui ouvrent leurs portes au public le week-end prochain. Au centre, bien sûr, le palais du Parlement, inauguré en 1902. De chaque côté, les ailes est et ouest, en particulier l'aile ouest avec les salles du Conseil fédéral, et notamment le chalet, cette pièce boisée dans laquelle le Conseil fédéral tient ses séances hebdomadaires. À voir aussi les deux hôtels de luxe qui délimitent l'espace. À l'est, le Bellevue, un 5 étoiles toujours en activité. À l'ouest, le Bernerhof, premier hôtel de luxe de la ville à partir du milieu du 19e siècle, vendu à la Confédération en 1924 et depuis lors, ministère des Finances. Entre autres visites proposées encore, celle de la salle de conférence du Conseil fédéral au deuxième sous-sol du Centre des médias, un espace qui s'était invité dans le Salon des Suisses durant la pandémie. Les services du Parlement fédéral qui invitent la population à pousser les portes habituellement fermées et bien gardées de la Berne fédérale proposent diverses animations. Par exemple, comment fabrique-t-on et détruit-on un billet de banque à la Banque nationale ou comment ont évolué les pratiques du service de renseignement.
C'était Serge Jubin, notre correspondant à Berne.
Retrouvez le fil de l'actu sur lfm.ch.